Et madame la ministre, je vous fais un remerciement tout particulier parce que vous faites les transitions à ma place, puisque la table ronde sur laquelle nous allons passer s'intitule justement « Comment relancer la production dans les territoires ?» Et je vous demande d'accueillir, aussi chaleureusement que vous l'avez fait depuis ce matin, Charles Dupont, président de Schroeder Zaida, Philippe Dornano, président de Sisley, co-président du Métis, Maxime de Rostelan, fondateur de Ferme d'Avenir et de la Bascule, Christian Saint-Étienne du Cercle des économistes, et Isabelle Nbel du Monde pour animer cette dernière séquence.
Voilà, donc là, effectivement, la transition s'est faite tout naturellement, puisque nous allons aborder la table ronde qui concerne la relance de la production dans les territoires. On le sait, c'est un euphémisme, le système productif français a été profondément modifié, d'une part par le déclin industriel et d'autre part par la refonte du modèle agricole. Depuis, on le voit chaque jour et on l'a entendu depuis ce matin, les situations de crise s'accumulent. Le mouvement des bonnets rouges, celui des gilets jaunes montre bien le refus d'une gestion qui serait trop centralisée de l'économie. Pour autant, notre modèle industriel et agricole est-il condamné? On voit ici et là émerger des facteurs de renouveau. On a vu ici se créer des territoires d'industrie, là de nouvelles zones franches, là encore des fermes urbaines, on en parlera. On a assisté également à la réforme de la fiscalité locale, le tout évidemment dans un contexte que nous connaissons tous de révolution numérique et de transition écologique. Pour autant, les interrogations demeurent. Le développement territorial peut-il se passer des agriculteurs dans le monde rural aujourd'hui? Comment reconnecter les centres urbains avec les problématiques agricoles et industrielles des territoires? Et enfin, de quels moyens disposons-nous pour redynamiser la compétitivité des territoires? Eh bien, démarrons tout de suite sur le constat. Christian Saint-Étienne, vous êtes, je le rappelle, d'une part membre du Cercle des économistes, bien sûr, mais également professeur titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, quel est votre constat de votre fenêtre, qui est vaste, hein? Prenez le micro.
Donc les territoires jouent un rôle clé dans le renouveau du tissu productif. On a laissé, enfin, vous avez évoqué plusieurs choses. Je ferai juste une ou deux remarques préliminaires. Les gilets jaunes sont les enfants de la désindustrialisation massive du territoire. Quand vous construisez une usine, vous la mettez pas à Place de la Concorde. Vous allez sur un territoire où vous trouverez de la main d'œuvre, où vous avez des nœuds de communication et où vous avez le terrain et les coûts de production les plus faibles. Donc, sur les 20 dernières années, la France s'est laissée désindustrialiser. Nous avons collectivement fait une erreur majeure, gauche et droite confondues. L'idée clé était qu'on entrait dans un monde post-industriel, post-travail. C'est une idée radicalement fausse. C'est-à-dire qu'on a confondu la sortie de la deuxième révolution industrielle de l'électricité, du moteur explosion, avec la sortie de l'industrie, alors qu'on entrait dans la révolution du numérique. Donc on a perdu beaucoup de temps et on se retrouve dans une situation avec des territoires fortement désindustrialisés. Donc pour moi, la question fondamentale, c'est comment reconstruire un système productif compétitif sur les territoires. Alors, je suppose que ici comme ailleurs, on fait toujours, même inconsciemment, du France bashing, même si on veut pas le faire, en ayant toujours l'idée que tout va mal. En fait, il y a des atouts qu'on ne travaille pas. Il se trouve que naturellement, suite aux lois de décentralisation d'il y a bientôt 40 ans, mais également des initiatives prises à une époque par Chevènement qui ont contribué à l'émergence des collectivités de communes, il se trouve que nous disposons aujourd'hui de 1250 communautés de communes. Et c'était là la chance que nous avons, que nous n'utilisons pas, c'est que ces communautés de communes correspondent à peu près exactement à la définition des bassins de vie tels que les mesures l'INSEE. Alors qu'est-ce qu'on appelle un bassin de vie? C'est un bassin sur lequel la population vit, habite, travaille, se cultive ou a ses activités culturelles, se soigne. Donc, à partir du moment où nous avons 1250 territoires constitués en bassin de vie et qu'ils correspondent à peu près exactement aux communautés de communes. Moi, j'ai une proposition que je fais depuis le rapport que j'avais remis au président de la République il y a une dizaine d'années sur, qui s'appelait d'ailleurs « Mobiliser les territoires pour la croissance », c'est de donner un rôle très important à ces communautés de communes. Je propose d'ailleurs de les renommer communes métropolitaines et de leur de faire en sorte que l'élection de ces des exécutifs de ces communes métropolitaines soit directe plutôt qu'indirecte. Et je suppose que le temps est très limité, donc je conclurai en disant que ce que j'exigerai, c'est pas seulement c'est la loi qui doit le faire, ça suppose une volonté nationale. Mais j'exigerai que ces communes métropolitaines fassent tous les 3 ans un plan de développement à 6 ans, donc un plan glissant tous les 3 ans, qui serait coordonné par les départements et les régions, en lien avec l'État, dans le cadre d'une stratégie nationale de développement économique. Mon collègue de gauche aura une autre vision, mais je... De gauche ici, pas politiquement, mais physiquement. Donc l'idée clé, c'est que nous avons besoin d'une croissance durable, une croissance durable dans laquelle l'industrie a une part très importante à jouer, qui permettrait de revivifier les territoires par le développement d'usines modernes, dans le cadre d'une politique générale de décarbonisation de notre territoire, mais également de décarbonisation de ce que nous consommons, ce qui passe évidemment par la mise en place d'une taxe carbone au niveau européen. C'est un impératif absolu. C'est pas la peine de se donner des objectifs à 2050 quand on peut mettre une taxe carbone à $50 la tonne tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de vraie volonté politique d'avancer.
Alors justement,
pour moi,
juste
sur ce point,
allez-y.
Pour moi, les deux sont liés.
Oui.
La réindustrialisation des territoires et dans un modèle de croissance durable et la mise en place de la taxe carbone et une réflexion générale sur les filières économiques, tout ça doit être conduit en même temps.
Tout à fait. Merci beaucoup pour ces propos, Christian Saint-Etienne. Vous avez brûlé les étapes puisque vous avez déjà commencé à nous parler des solutions, mais on va revenir sur le constat avec vous, Philippe Dornano. Vous êtes, je le rappelle, président de Sisley, mais vous êtes ici plutôt avec votre casquette de coprésident du METI, le METI qui, comme vous le savez, est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Alors, même question justement, Philippe Dornano, quel est le constat aujourd'hui quand on parle de production sur les territoires, où est-ce que nous en sommes?
Donc effectivement, moi, je partage l'analyse sur l'industrie. Il y a plus d'un million et demi d'emplois industriels en moins en France. Il y a aussi une énorme différence avec d'autres pays européens, notamment avec l'Allemagne, et ça dans une période de 20 ans. Il y a un deuxième point aussi sur lequel qu'il faut percevoir, c'est le moins grand nombre d'entreprises moyennes grandes, les ETI en France. Il y en avait autant qu'en Allemagne en 1980. En 2008, il y en a 2,5 fois moins. C'est peu connu, ça a été peu étudié, c'est peut-être plus microéconomique, mais c'est un vrai sujet. On a aujourd'hui 5 400 ETI en France, il y en a plus de 12 500 en Allemagne, il y en a 10 500 en Angleterre, il y en a 8 500 en Italie, et ces entreprises, 70% de leurs sièges sociaux sont hors de l'Île-de-France, contrairement à la plupart des grandes entreprises. Donc c'est vraiment non seulement l'économie des territoires, les usines des territoires, mais c'est aussi les centres de décision des territoires. Moi, je voudrais peut-être aborder aussi, on dit il y a donc moins d'industrie, mais pourquoi? Il y a moins d'industrie parce qu'il y a en France, dans un environnement européen ouvert, un énorme problème de compétitivité. Il y a plusieurs sujets qui se posent, mais j'aborderai celui qui concerne peut-être plus particulièrement les territoires, qui sont les taxes de production, dont on parle depuis peu de temps finalement, et qui est un problème qui est sans doute l'une des explications principales de la chute industrielle en France. On a des taxes de production qui aujourd'hui représentent 72 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois l'impôt sur les sociétés, même plus de 2 fois l'impôt sur les sociétés, ce qui est gigantesque. Ce sont des impôts qui sont payés par les entreprises qui produisent et travaillent en France. Donc c'est en fait, pour l'expliquer simplement, on a mis en place une sorte de douane à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne taxe pas les produits qui sont importés, on taxe les produits qui sont produits chez nous, et d'une manière assez considérable. Et donc ça génère un impact qui est extrêmement important sur notre économie. Puis enfin, si on le compare, parce qu'on pourrait se dire mais c'est nécessaire pour financer l'économie pour financer l'État, etc., ou les territoires, on taxe deux fois plus qu'en moyenne européenne. C'est-à-dire que quand on construit une usine en France, on paye deux fois plus de ces très importantes taxes de production qu'en moyenne européenne. Et elles sont payées, pour terminer, par essentiellement 55% de ces taxes sont payées par 1900 ETI industriels. C'est une source de l'inspection des finances. C'est-à-dire que ce sont des entreprises moyennes grandes. Les grandes entreprises trouvent d'autres méthodes. En fait, elles produisent à l'étranger. Elles conçoivent en France, mais après, elles produisent à l'étranger. Je crois qu'un peu moins de 20% seulement des taxes de production sont payées par les grandes entreprises. C'est essentiellement les ETI et les grosses PME qui payent ces taxes. Et le résultat, pour répondre à la question précisément, il est là. Il est là, ça veut dire qu'il y a 1,5 million de moins, enfin plus d'un million, entre 1 million et 1,5 million de moins d'emplois industriels. L'industrie, c'est un formidable effet multiplicateur. Ça génère toute une activité, ça tire les services. C'est sans doute l'activité qui a le plus fort effet multiplicateur selon les économistes. Et donc, ça a un impact, qui est un impact très très important sur notre économie territoriale. Et ça explique à notre sens, en tout cas pour partie, peut-être pas entièrement, mais le malaise qui maintenant apparaît des territoires. J'ajouterai un dernier point qui est important. Elles sont en très forte évolution. Elles étaient en 2011, après la réforme de la taxe professionnelle, entre 2011 et maintenant, elles ont augmenté de 15 milliards d'euros, la moitié de l'impôt sur les sociétés. Et on nous annonce une augmentation quasiment de 8 milliards d'euros dans les deux prochaines années. Donc on parle en plus d'un impôt qui est, ce n'est pas une situation qui est statique, c'est un impôt qui est évolutif.
Merci Philippe Dornano pour cette présentation effectivement de ces ETI qui ont une telle différence en nombre avec nos voisins européens notamment. Maxime de Rostolan, vous êtes, je le rappelle, fondateur de Ferme d'Avenir, qui est évidemment spécialisé, mais vous nous raconterez, dans l'agroécologie. Et puis, vous êtes également fondateur de La Bascule. La Bascule, c'est un mouvement de lobbying citoyen. Donc avec ces deux casquettes, quel regard portez-vous sur la situation actuelle de la production dans les territoires? Quelle analyse vous faites à ce jour?
Bonjour, merci beaucoup. Production, moi, ça connecte avec la production agricole et alimentaire.
Présentez-vous. Enfin,
donc, voilà, Ferme d'Avenir, c'est une association qui a pour objectif d'accélérer la transition agroécologique. Et elle part d'un constat. Donc, on est sur la phase constat. En 1940, avec une calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Aujourd'hui, il faut 7 à 10 calories fossiles pour faire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Je le refais. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. C'est un peu une insulte à l'intelligence humaine pour une société qui s'y développait d'avoir besoin de 25 fois plus d'énergie pour produire ce qu'elle mange. Et en fait, c'est surtout que c'est suicidaire. C'est-à-dire que ça fonctionne tant que le baril vaut $60. Moi, je suis pas du tout économiste, hein, je suis ingénieur. Tant que le baril vaut $60, ça fonctionne. Le jour où le baril vaut $200, la ferme France est par terre et on sait plus se nourrir. Je sais pas ce que ça donnerait par rapport à une épidémie mondiale comme le coronavirus, mais en tout cas, ça nous donne une idée de ce que les grandes crises qui arrivent peuvent avoir comme impact. Je vais vous donner un autre chiffre. En 20 ans, entre 98 et 2018, l'homme a extrait autant de ressources que l'humanité dans son ensemble avant 98. On veut de la croissance, mais ça marche pas en fait. La croissance, c'est une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, ça ne fonctionne pas. Et quand on parlait juste avant, on discutait de ces questions-là, ce qui fait que je me suis mis à gauche de tout le monde. Il n'y a pas de décorrélation possible, il n'y a pas de découplage possible entre l'exploitation des ressources et la croissance. Et en fait, oui, la croissance, ça crée de l'emploi, mais moi, il me semble que l'homme est suffisamment intelligent pour s'épargner plein de tâches chiantes et que si collectivement on arrive à inventer une société qui soit non plus une société d'exploitation, mais ce que je voulais dire, c'est tout à l'heure on parlait de ferme et d'agriculture, et vous avez employé le mot que tout le monde emploie, qui est exploiter la terre. En fait, faut pas exploiter la terre. On n'est pas là pour exploiter la terre. On est là juste pour vivre en harmonie. Ça peut paraître fleur bleue et petits bisounours. Juste, on voit que quand les forêts crament, qu'il y a plus de de glaciers, il y a plus de glace au pôle. Et quand on voit qu'une génération entière, donc la, dont la bascule est un emblème, ne veut plus travailler, ne veut plus s'inscrire dans ces modes-là qui sont, d'ailleurs, j'écris un bouquin en ce moment et j'ai un petit couplet sur l'économie, mais l'économie, c'est, enfin, contrairement à ce que la médaille, soi-disant prix Nobel veut bien faire croire, c'est pas une science, c'est une théorie, ça reste un dogme. Et en fait, il s'avère juste que cette théorie nous emmène aujourd'hui dans le mur, puisque en 30 ans, elle a fait disparaître 80% des insectes en France, elle a fait disparaître 80% des emplois dans le seul secteur qui soit réellement nécessaire. Celui de nous nourrir. C'est-à-dire que oui, on peut avoir de la croissance et chercher des relais de croissance en faisant fonctionner de l'industrie et en mettant 20 milliards de pubs pour nous faire croire qu'on a plein de besoins. Le seul besoin qu'on aura à terme, ce sera de manger. Et aujourd'hui, si jamais il y a une crise, tout le monde se rue dans les supermarchés et personne va dans les champs. Personne ne sait plus travailler ça. Et en fait, pour moi, la vraie relance des territoires, elle est, et je terminerai là-dessus. Il y a, donc le biomimétisme, c'est le fait de s'inspirer de la nature. En fait, nous, on est rien. C'est-à-dire que, je vous le fais vite, hein. Si 1 milliard d'années c'est 1 kilomètre, la Terre elle a 4,5 kilomètres d'années. Juste pour se donner une, pour prendre un petit peu de hauteur, parce que 4,5 kilomètres d'années. L'homme, donc 1 milliard d'années 1 kilomètre, 1 million d'années 1 mètre, 1000 ans 1 millimètre. L'homme est apparu il y a 20 centimètres. Le pétrole a été découvert il y a 0,15 millimètres. En 0,15 millimètres, on aura sorti ce qui avait mis 3,8 kilomètres à s'accumuler. On est un accident. On est un accident, clairement, c'est un Dirac. Si on dézoome un tout petit peu et qu'on arrête de regarder le pétrole, la croissance, le machin, 2020, 2022, 2100. Non, mais un tout petit peu d'ambition pour les générations futures et regardons à 2 millions d'années. Dans 2 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore des humains? Pour l'instant, on est juste en train de se dire 2100, on va se taper 7 degrés, bon, ça va le faire. Bon, les pays pauvres, ça va... Non, juste un tout petit peu d'ambition pour la civilisation humaine, et je pense que l'histoire de la croissance et des ressources et de l'exploitation a fait son temps, quoi. Et donc, je pense juste qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens dans les champs et que ça se fasse de manière intelligente et désirable et souhaitable. Et pour l'avoir vécu, c'est tout à fait jouable.
Merci Maxime. Je voulais juste rebondir sur quand vous avez fondé Ferme d'avenir, vous avez vraiment été pionnier hein, sur l'agroécologie. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en termes de production agricole quand vous avez mis les mains littéralement dans la terre sur la production agricole française?
Alors, sur la production agricole française, ma vision est que très partielle. Mais dans une ferme, nous on a transformé un parking. Qui n'avait plus rien de vivant en une ferme luxuriante. En 1 an et demi, on a fait remonter la matière organique de 2,5 points. Juste, il faudrait faire juste 0,4%, donc il faudrait faire moins 0,5 point pour capter tout le carbone qu'on émet. Donc on arrive à le faire à petite échelle. La question, c'est réussir à le faire à une échelle plus large. Et donc on a, dans la foulée de cette première ferme en Touraine, créé une ferme de 70 hectares à Brétigny, donc dans l'Essonne, ferme autour de laquelle on crée 100 autres fermes, donc 2000 emplois sur le territoire. Et si jamais on fait ça dans tous les départements, ça fait 200 000 emplois. Donc, juste les solutions, elles existent, elles sont là. Le seul problème, c'est qu'elles s'inscrivent pas dans une logique économique. Ah oui, j'avais pas terminé mon petit pic sur Nobel. On a quand même volé l'histoire du prix Nobel. Enfin. Bref, j'ai digressé.
Effectivement, on va pouvoir... Christian Saint-Etienne, vous voulez intervenir? Et ensuite, Charles, ça sera à vous de nous expliquer votre vision.
Bon, alors, contrairement à ce à quoi vous attendez, je ne vais pas vous attaquer de front, même si vous avez cru attaquer les économistes de front. En réalité, l'économie est apparue, enfin la théorie économique, la réflexion économique est apparue il y a 3 siècles. Elle est vraiment formalisée depuis 1 siècle. Mais l'homme existe depuis 3 millions d'années, les sociétés un petit peu organisées existent depuis 10 000 ans, et l'homme, quand il est conscient, il veut produire pour se nourrir, pour se loger, pour assurer sa sécurité, pour se reproduire, puisqu'en réalité, fondamentalement, nous sommes des animaux avec une fonction conceptuelle supérieure. C'est du moins ce que nous pensons. Et donc, dans ce contexte, je suis totalement favorable à la croissance durable et totalement favorable à la protection de la nature, d'autant plus que je suis d'une lignée paysanne. Alors, ceci étant, ce sont les économistes qui ont, il y a une trentaine d'années, pour évoquer ce qui est devenu central dans la réflexion économique, qui ont dit qu'une des façons de passer d'un modèle de production intensif en ressources naturelles à un modèle plus raisonnable, c'est notamment la taxe carbone sur l'énergie. Mais il y a plein d'autres choses qui, puisque vous êtes ingénieur, que les économistes et les ingénieurs ont fait ensemble, ont imaginé ensemble, c'est aller vers des bâtiments à énergie positive. Donc on voit que l'homme a été obsédé par la production pour se nourrir, et maintenant il intègre, grâce à cette fonction supérieure, les nécessités de la survie de l'espèce, et que donc on va vers des bâtiments au moins à énergie neutre, éventuellement à énergie positive. Je l'évoquais entre nous avant la table ronde. En France, il doit y avoir 26-27% du territoire couvert de forêts. La filière bois, c'est le deuxième déficit en France derrière de la balance commerciale, derrière le pétrole. On peut peut-être mettre en place une filière bois qui permettrait de faire de la biomasse, ainsi de suite. Donc, on voit que la réflexion économique, la réflexion et le travail des ingénieurs ensemble, à travers une industrie qui prend en compte toutes les contraintes et à travers une production agricole qui elle-même prend en compte les conséquences d'excès d'engrais ou de choses comme ça, on peut modifier le modèle. Donc je pense, je termine par là, mais je crois que c'est très très important, c'est une erreur d'opposer économie, écologie. Et je pense que la solution, elle est devant nous, par, au contraire, une réflexion à la fois économique, une réflexion d'ingénieur, un travail, et surtout une réflexion stratégique collective. Alors, je ne l'évoque pas puisqu'on y reviendra après, mais il se trouve qu'à titre personnel, depuis 30 ans, je suis très favorable, j'écris beaucoup sur l'État stratège. Alors, ici, on va vous expliquer, et je suis d'accord qu'il y a aussi des entreprises stratèges lorsqu'elles sont familiales et qu'elles se reproduisent sur la durée. Mais, par exemple, sur la filière bois, s'il n'y a pas de volonté nationale, il se passe rien. Voilà. Donc, parce qu'une politique du bois, c'est quelque chose qui se construit sur 20 ans, et les 19 premières années, ça rapporte pas. Donc le secteur privé va pas y aller, et donc il faut aller sur des visions collectives qu'on met en action avec des entreprises privées, mais il faut que les deux travaillent ensemble. Donc je dirais, il faut que l'écologie et l'économie travaillent ensemble, et il faut que l'État retrouve une fonction stratégique qu'il a perdue. Hein, aujourd'hui, on a un État obèse et impuissant. Il faut retrouver un État léger, capable d'être un acteur de long terme.
Alors, une phrase, Maxime.
Je n'oppose pas l'économie et l'écologie, j'oppose la croissance à tout prix et l'écologie.
Charles Dupont, vous êtes président de la société de gestion Schroeder Zaida. Vous avez donc une vision évidemment éminemment financière. Vous investissez beaucoup dans les infrastructures, hein, c'est vraiment votre spécialité. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la situation de la production dans les territoires?
Moi, j'ai grandi à la Membrolles-sur-Longuenée, dans le Maine-et-Loire, à 20 km d'Angers. À 17 ans, j'ai eu une seule envie, c'est de partir à la grande ville. Pardon, excusez-moi. J'ai qu'à 17 ans, j'avais une seule envie, c'est de partir à la grande ville. Notamment à Paris, parce qu'il y avait des écoles, parce qu'il y avait des manifestations culturelles, parce qu'on pouvait bouger. Et ce que je vois, c'est que depuis 30 ans maintenant, les choses ont assez peu changé. Est-ce que vous pensez qu'un entrepreneur où des employés ont envie de s'établir dans un endroit où il n'y a que la voiture pour aller à la ville, où il n'y a pas de train, où les trains ne sont pas sûrs, sont même pas très sûrs du tout, où il n'y a parfois pas la 4G, je ne parle même pas de fibre optique. On est vraiment dans le problème, un problème en France, c'est qu'on a mis le paquet sur des grandes métropoles, il y en a 22, qui drainent 40% de la population française pour 2% du territoire, et qu'en dehors, à part quelques exceptions, on a des endroits qui sont malheureusement pas très favorisés. Et pour moi, pour relancer l'industrie dans les territoires, il faut d'abord avoir envie de donner aux gens et aux entrepreneurs d'habiter ces territoires. Je vais donner un autre exemple. Encore une fois, je suis désolé, c'est un exemple personnel. Vous êtes parisienne, je suppose? Voilà. J'ai une maison à 10 km de la limite de la frontière du Val d'Oise. Prenez Paris, vous traversez le Val d'Oise, Évillers-la-Dent, vous allez vers Beauvais, et là, poum, après Chambly. J'ai la 3G, j'ai pas de fibre, il n'y a pas de train, il n'y a rien du tout. On est pourtant en région Île-de-France, on peut considérer ça comme la région Île-de-France. Comment ça se fait qu'on soit dans un désert aussi proche de Paris? Je ne parle même pas de métropoles comme Bordeaux, Marseille, où alors là, la limite est encore plus proche du centre-ville. Donc pour moi, le vrai constat, c'est que si on veut faire relancer les territoires, il faut d'abord créer des infrastructures physiques, des infrastructures qui sont les transports. On a parlé aussi, et j'ai entendu le cri du cœur tout à l'heure de Sophie Boissard pour les infrastructures numériques, et elle a tout à fait raison, parce que la région, on disait que c'est bien d'avoir le Wi-Fi dans toutes les écoles. Vous demandez à un Jones si le Wi-Fi, c'est, c'est l'innovation. Non, le Wi-Fi, c'est à la base, c'est comme l'eau et l'électricité aujourd'hui. Donc il faut absolument avoir toutes ces infrastructures-là qui soient disponibles pour tout le monde, et n'importe quand.
Effectivement, vous donniez l'exemple, enfin, on va venir aux solutions, mais l'exemple dans une tribune que vous avez rédigée pour Le Monde, vous donniez l'exemple de l'investissement dans un pont, je crois, à Bordeaux, et j'ai trouvé que c'était très... Vous pouvez nous le partager, c'est assez édifiant.
Ah oui, surtout que c'est assez amusant, parce que j'ai eu la chance d'habiter à Bordeaux, il y a 20 ans, et à l'époque, on devait développer les zones franches. Notre Premier ministre de l'époque, qui d'ailleurs est devenu peu de temps après maire de Bordeaux, avait lancé un programme de développement des zones franches. C'est marrant, parce que ce programme a très peu marché. Mais à partir du moment où le pont a été créé, d'un seul coup, il y a eu un échange entre les deux villes. Alors, d'un seul coup, je dis d'un seul coup, c'est une erreur. Parce que justement, c'est un de mes sujets, c'est qu'il faut pouvoir inscrire les relances dans le temps long, qui n'est pas forcément celui de l'action politique. Mais c'est vrai que la vie dans l'agglomération de Bordeaux a complètement changé avec ce nouveau pont.
Merci pour ce constat, Charles Dupont. Christian Saint-Étienne, donc on va pouvoir venir justement à la partie du débat sur les solutions. Donc on a planté le décor et on voit que ça ne va pas très très fort en matière de production sur les territoires. Mais que peut-on faire? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous, Christian Saint-Étienne?
Alors il y a quand même des territoires qui marchent très bien, des territoires qu'on connaît, qui sont pourtant isolés, le Choletais, il y a d'autres territoires de ce type, généralement d'ailleurs qui sont appuyés sur des cultures locales extrêmement fortes, avec une solidarité locale très forte également sur le plan social et économique. Il y a la Vendée également, donc il y a beaucoup de territoires sur le pays, heureusement, qui fonctionnent de manière optimale. Il faut effectivement des infrastructures physiques et numériques pour accélérer le redéploiement des territoires. Mais l'idée que je défends, c'est que si on faisait ces 1200 communes métropolitaines qui seraient obligées de mettre en œuvre une réflexion globale à la fois avec les entreprises sur les besoins de santé, sur les besoins d'éducation, sur les besoins culturels de chacun de ces bassins de vie, en intégrant ces réflexions dans des plans d'action qui seraient co-intégrés au niveau départemental et régional. L'idée, c'est de relancer une action territoriale qui soit en lien avec les besoins locaux. Si vous vous souvenez dans les analyses du Monde et d'autres journaux de ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, les gens descendaient dans la rue et bloquaient tout parce qu'ils disaient « la seule personne qui décide dans ce pays, c'est le président de la République, il s'occupe pas de nous ». Ça, ça ne changera pas parce que c'est pas celui qui est à Paris qui va régler les problèmes. C'est pour ça que ma proposition, c'est en fait de créer, à travers ces 1250 communes métropolitaines, 1250 exécutifs locaux qui soient responsables de l'aménagement économique, mais effectivement des infrastructures physiques et numériques, mais également de la santé. Corrélativement, on parle de la crise du système de santé, on parlait du Covid. La question, c'est également de remailler notre territoire de maisons de santé avec 5 ou 6 médecins à chaque fois, une dizaine d'infirmières et autres. Il en faut entre 3000 et 5000 à l'intérieur de ces 1200 bassins de vie, de telle sorte que les gens n'aient pas forcément besoin de faire 80 km en bagnole pour aller voir un médecin. Donc il y a toute une réflexion globale de remaillage du territoire. Alors c'est là où on retrouve le numérique. Nous avons à peu près 2600 hôpitaux dont la moitié n'ont pas les équipements nécessaires. Bon, les évolutions technologiques dans ce mode, dans le domaine de la santé font que probablement l'optimum, ça serait d'avoir peut-être 600, 800 hôpitaux, mais équipés au niveau des meilleures technologies. Mais l'idée, c'est que si on a, mettons, 5000 maisons de santé, des maisons significatives, avec une vingtaine de personnels de santé à chaque fois, c'est que ces maisons de santé doivent avoir également tous les équipements qui doivent être interconnectés par le numérique avec donc les centres principaux de recherche et de traitement, de telle sorte que un médecin qui reçoit sur un territoire des patients puisse, quand il a une question, interroger immédiatement un spécialiste dans un de ces hôpitaux. Alors après, je ne vais pas le développer, mais vous savez que ça pose d'autres sujets. Là aussi, il faut des évolutions. Quand un médecin spécialisé répond à un autre médecin, aujourd'hui, il perd son temps. Donc il faut, par exemple, dire que dans la vie d'un médecin hospitalier, il aurait deux demi-journées par semaine où il serait face à un écran en lien avec des médecins sur les territoires, et ça serait valorisé comme quand il opère ou quand il fait de la recherche. Donc on voit que dans tous les domaines, que j'évoquais la forêt tout à l'heure, je vous donne juste une indication sur la forêt parce que je trouve ça assez fascinant. La forêt, ça suppose de connaître les sols, ça suppose de connaître toutes les essences, ça suppose donc de cartographier toutes les forêts françaises hectare par hectare pour savoir quel type d'essence, quel type de sol, quel type de compte tenu des besoins hydrauliques et autres, qu'est-ce qu'on peut faire qui préserve la nature justement. Et ensuite, si vous voulez, donc il y a le bois pour la production d'énergie, mais si vous voulez du bois, par exemple, on essaye maintenant de faire des maisons en bois, des immeubles en bois, donc il faut être capable de faire sécher le bois. Bon, ben une sécherie de bois, jamais le privé va le faire, c'est pas une critique, c'est une observation. Une sécherie de bois, c'est un investissement de 2, 3, 4 millions d'euros, et on sèche le bois pendant 2, 3 ans pour qu'il soit ensuite utilisé par des entreprises. Donc on voit bien que c'est un travail collectif qui doit être mené. En plus, on n'a plus de menuiserie, elles sont de taille microscopique, donc il faudrait des ETI dans la menuiserie, dans le travail du bois. Donc c'est toute une réflexion collective, et tout ce travail stratégique n'est plus fait dans notre pays.
Alors justement, effectivement, sur les ETI, Philippe Dornano, je voulais avoir votre point de vue sur que peut-on faire pour que ça reprenne, que la production redémarre, et notamment, évidemment, avec votre angle sur les ETI.
D'abord, la première chose, c'est qu'il y a pas de fatalité. Après, on peut avoir un débat différent qui est savoir est-ce qu'il faut croître ou décroître. Moi, je voyage beaucoup dans le monde et je vois que la grande appétence et puis la grande idée même depuis les années 70, c'était de voir aussi le monde se développer. On travaille dans plus de 100 pays et il y a quand même un désir d'amélioration humaine, un désir d'avoir une meilleure condition, de mieux travailler, d'avoir des meilleures conditions de vie de la part des populations dans le monde. Et je pense que même si nous on prend une position que peut-être d'ailleurs on prend à juste raison, il n'est pas sûr qu'on soit écouté par une grande partie de la population mondiale qui n'a pas juste du tout le même point de vue que nous. Pour en venir à la production chez nous, enfin nous on essaye de défendre aussi nos entreprises, nos salariés, nos territoires. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de fatalité du tout. Il y a d'autres pays qui, en Europe, dans les mêmes conditions que nous, avec les mêmes niveaux de prestations sociales, etc., arrivent à faire beaucoup mieux que nous, arrivent à être beaucoup plus dynamiques que nous et arrivent à conserver leur activité dans les territoires. Je pense qu'on peut mettre toute une série de mesures sur les équipements, etc., mais que si on n'aborde pas le cœur du problème qui est on est en économie ouverte et donc il faut qu'on soit raisonnablement compétitif, donc on ait une production qui ne soit pas surchargée de taxes, ce qui la rend impossible en France et oblige les entreprises à produire dans d'autres pays. Il faut qu'on aborde le sujet. Alors comment est-ce qu'on l'aborde pour les taxes de production? Le premier point, à mon sens, c'est déjà de se dire qu'on va arrêter de les augmenter. C'est déjà un premier point, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Il faut avoir conscience qu'on est dans une phase où les choses vont, pour le moment, se détériorer. Les taxes de production, elles vont probablement dans les deux prochaines années prendre 8 milliards d'euros de plus. Donc ça va, il va y avoir de moins en moins, la ligne de flottaison va monter, et il y aura de moins en moins d'entreprises de tout type, hein, ça peut être les scieries, ça peut être des entreprises de différents types, toutes celles qui ont des marges pas trop importantes, elles vont commencer à disparaître, elles vont se délocaliser, elles vont simplement disparaître, et puis ce sera des concurrents étrangers qui prendront le pas. Et donc il faut déjà faire ce premier point. La deuxième chose, c'est qu'on ne traite pas un problème si on ne sait pas de quoi on parle. Donc à mon sens, il serait extrêmement important qu'il y ait un indicateur de fiscalité globale des taxes de production qui soit créé par l'État. Enfin, là, effectivement, l'État joue un rôle d'arbitre et qui permette de savoir où on va. Est-ce qu'elles augmentent ? Il faudrait que ce soit connu par le Parlement, il faudrait que ce soit connu par les médias, il faudrait que ce soit publié tous les ans. Et il faudrait qu'on sache comment est-ce qu'on évolue par rapport à cette... Est-ce qu'on continue d'augmenter la douane intérieure ou est-ce que... Où est-ce qu'on la diminue, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va. Puis le troisième point, c'est qu'à mon sens, si on veut recréer de l'activité dans nos territoires, en tout cas de l'activité industrielle, il faut ramener ces taxes de production à ce qu'elles étaient en 2011, il y a 9 ans. Hein. Ça veut dire déjà les baisser de 15 milliards. C'est-à-dire qu'en 9 ans, elles ont pris 15 milliards jusqu'en 2018, et on parle d'encore 8 milliards de plus sur les deux prochaines années. Si on ne le fait pas, bah écoutez, on aura beau faire tous les équipements qu'on veut, on aura beau, etc., on va se retrouver face aux mêmes situations avec tous les sous-jacents qu'on a vus, c'est-à-dire une incompréhension de la population, des révoltes, des tensions. Si on n'a pas l'activité économique, et ben, tout simplement, ces choses-là... Donc il nous semble que ces éléments, aborder le problème, essayer collectivement d'y faire face, sont importants, mais que si on le fait... Il y a absolument, on est un pays qui est formidable, je pense qu'on est tous convaincus. On a les Français pris dans des. Quand ils sont dans des bonnes organisations, sont très productifs, très motivés. Quand ils travaillent à l'international, ils sont appréciés. Je pense qu'on n'a vraiment aucune raison de ne pas réussir aussi bien que enfin, je ne peux même pas citer les Allemands parce que c'est toujours qu'on cite, mais il y a plein de petits pays européens notamment qui fonctionnent très bien et qui sont tout aussi performants. Mais il faut retrouver un sens collectif de responsabilité dans nos territoires.
Charles Dupont, vous venez d'écouter nos deux intervenants. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça résonne à vous, le financier ? Qu'est-ce qu'on peut faire de votre point de vue pour redresser la production ?
Ah ben, oui, pour moi ça résonne. Deux fois je voulais intervenir justement parce que c'est tout à fait cohérent avec notre vision. C'est-à-dire que il faut qu'on fasse, d'abord il faut qu'on limite les impôts en France, qu'on les réduise. Il faut qu'on évite le morcellement de la décision politique qui aujourd'hui est dispersée entre 36 500 communes pour faire évoluer les projets d'aménagement. On a besoin d'une vision claire. Je regrette personnellement l'ex-Datar, qui effectivement a pris des formes un peu différentes, mais qui est quand même beaucoup moins inscrit dans les plans angoliens d'aménagement du territoire. À mon avis, c'est ça dont on a besoin. Si ça ne doit pas prendre cette forme-là, ça doit prendre au moins une vision très claire. Et puis, on a aussi besoin de moins d'argent public. La plupart des investissements qui sont faits dans ces équipements publics sont aujourd'hui faits par l'État ou les collectivités locales. Et malheureusement, d'abord, la voie politique, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas forcément toujours traçable, visible à long terme, qui est justement le long terme nécessaire à l'accomplissement de projets de ce type. Et deuxièmement, parce que il existe beaucoup d'argent privé à investir dans les infrastructures en France. Rien que nous, au cours de ces 5 dernières années, on a investi plus de 2 milliards d'euros dans les infrastructures publiques en France. Que ce soit dans l'eau, dans les réseaux d'eau, dans les réseaux numériques, dans évidemment la fibre optique, dans les matériels de chemin de fer, dans les autoroutes, il y a énormément d'argent qui vient évidemment de compagnies d'assurance ou de caisses de retraite ou de prévoyance qui sont notamment intéressées d'investir dans ces actifs puisqu'elles offrent des rendements réguliers récurrents, mais aussi parce qu'à côté, comme vous avez pu voir sur les marchés financiers, les rendements obligataires classiques des obligations souveraines sont nul voire négatif. Donc pour elles, ce sont des opportunités d'investir non seulement dans des produits financiers intéressants, mais aussi des actifs qui ont un impact sur le territoire très important. Donc il y a de l'argent qui est disponible, nous en sommes un des bras armés pour investir dans ces territoires, et malheureusement, les projets ne sont pas forcément toujours visibles, de par le morcellement de l'action publique. Effectivement, si on avait plusieurs communes qui se remettaient ensemble ou plusieurs régions qui se mettaient ensemble pour lancer des projets, ils auraient une granularité, comme on dit dans notre jargon, qui est moindre et qui permettrait à des acteurs financiers de les regarder et peut-être d'y investir. Et puis, et surtout d'être beaucoup plus visible. Il y a une deuxième chose, c'est Je pense qu'il faut dédiaboliser l'argent privé dans les services publics. L'argent privé, c'est une manière de contribuer au développement du territoire. Ça permet d'ailleurs de réduire les impôts d'une certaine manière. Et même si la dette coûte pas très cher aujourd'hui, elle a un taux zéro, un jour il faudra la rembourser. Donc ça veut dire qu'un jour il faudra augmenter les impôts. Donc plutôt que ça, autant financer avec de l'argent privé et réduire les impôts à long terme.
Mais merci pour cette intervention, Maxime de Rostolan. Est-ce que voilà, vous venez d'écouter nos trois orateurs. Est-ce que vous partagez cette vision des solutions? Est-ce que pour vous c'est ce qu'il faut faire? Comment vous voyez ça?
La réponse est clairement non, ouais. Non, enfin, dédiaboliser l'argent privé pour les investissements dans des services publics comme l'eau, moi, non. Enfin, vous n'arrivez pas à me dédiaboliser ça. Et vous dites, sinon, c'est de l'argent privé, c'est de l'argent public, faut augmenter les impôts. Enfin, le vrai problème, c'est qu'il y ait autant d'argent privé prêt à investir sur des biens publics. Et c'est plutôt là qu'il faut résoudre le problème et faire en sorte qu'il y ait plus cette masse d'argent privé prêt à investir dans des biens public et dans les biens communs, quoi. Juste sur le désir d'amélioration des populations, il y a deux choses. La première chose, c'est que est-ce que tout désir doit être satisfait? Déjà, est-ce que tout désir est vraiment un désir intrinsèque ou est-ce que c'est un truc provoqué par la pub et la fabrique du consentement, tout ce qu'on veut, enfin voilà, sur la propagande pour vendre toujours plus de choses? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça tombe bien. Les Chinois, ils sont à un tiers de leur quota. Ils peuvent faire x3 dans leur niveau de vie. Donc, ils peuvent répondre à ça. En revanche, nous, notre besoin d'aller faire un week-end à Barcelone, d'avoir de la 5G, d'avoir tout ça, non, parce qu'en fait, c'est pas soutenable. Et donc, il y a des désirs qui sont soutenables et de l'autre qui le sont pas. Et juste pour ceux qui regardent, vous allez dire, mais non, la Chine, en fait, c'est quand même 20% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, bah oui, mais c'est pas 20% des émissions de gaz à effet de serre pour les Chinois, c'est pour nous. C'est pour nous. Et puis on découvre hier qu'en fait, c'est même pas les Chinois qui produisent, c'est des esclaves, d'accord? C'est des gens qui, par leur religion, se retrouvent obligés de... Bref, donc non, évidemment, ma solution, elle est... Enfin, la solution, j'ai pas une solution. Je dis juste qu'en fait, on a les mauvaises lunettes. On a les mauvaises lunettes parce que dans notre monde actuel, aujourd'hui, ce qui fait gage de croissance et donc de réussite peut être totalement délétère. Une marée noire, ça explose, un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, ça fait marcher les assurances, faut le démanteler, faut en refaire un, faut le re-remplir, bref, ça fait du PIB, ça fait de la croissance. Une marée noire, c'est bon pour l'économie. Donc non, moi je veux pas ça. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit il faut changer nos lunettes, changer le prisme par lequel on évalue ce qui est bon ou pas. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est bon ou pas n'est évalué qu'à l'aune des euros et de la rentabilité financière. Or, on a vu qu'on a perdu, donc encore une fois, hein, 60% des animaux sauvages dans moins que l'espace de ma vie, quoi. Enfin, on n'est pas en train de dire non, mais t'en fais pas. Toutes les générations ont connu leur crise, on s'en relève, et puis il y a de la technologie qui arrive. Non, on a perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans, d'accord. On a perdu 80% des insectes. Les terres ont été dégradées à plus de 70%, donc on ne sait plus aujourd'hui produire sans pétrole. Bref, donc non, en fait, juste Maxime, donc du coup, qu'est-ce qu'on dit?
Alors, on vend
nos tomates, bien évidemment. On vend nos tomates, mais pas suffisamment pour payer des gens décemment. Hein, un maraîcher en moyenne en France, il gagne 700 euros par mois. En moyenne, un maraîcher français gagne 700 euros par mois. Et l'agriculture chimique, qui prétend pouvoir apporter des solutions, laisse un tiers des agriculteurs avec 300 balles par mois. C'est quand même pas terrible. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'en fait, il faut changer ses lunettes. Et en fait, ça s'appelle la comptabilité en triple capital. Et c'est donc rajouter deux capitaux au bilan des entreprises, que ce soit dans le compte de résultat ou dans le bilan comptable. On rajouterait deux catégories qui seraient le capital humain et le capital naturel, et on jauge la réussite d'une entreprise en fin du compte avec ces deux capitaux. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour évaluer combien elle a économisé en termes de vie ou de... En fait, c'est assez compliqué. Donc, il y a pas mal de chercheurs qui, depuis des années, essayent enfin, travaillent là-dessus. Et notamment, Jacques Richard à Dauphine, qui parle de la comptabilité CARE, comptabilité adaptée à la régénération des écosystèmes. Parce que c'est notre seule obligation, c'est notre seul devoir. Notre seul devoir, c'est pas d'inventer des nouveaux trucs pour faire des nouveaux emplois. Notre seule obligation en tant qu'humain aujourd'hui, c'est de réparer la planète autant que possible. Et donc, il faut que les entreprises s'emparent de ce sujet. Et en fait, Ce qui est important aujourd'hui, c'est de questionner l'utilité des entreprises. Moi, une entreprise qui va me vendre, je sais pas quoi, de la 5G avec des trucs à obsolescence programmée, etc., elle a aucune utilité. Elle a juste des impacts négatifs. Et il va falloir interroger l'utilité des entreprises. Et la finalité aujourd'hui, notre seule obligation, c'est de régénérer les écosystèmes. Sinon, en fait, dans deux générations, il n'y en a plus.
Moi, ce qui me gêne juste, c'est deux choses. C'est un, c'est vous qui décidez?
Justement,
c'est ça le problème. Ça c'est le problème, le premier problème. Et le deuxième point,
j'ai pas compris la question. C'est quoi?
C'est vous qui allez décider qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est pas utile. C'est-à-dire que il y a quand même un sujet démocratique. Il y a un deuxième sujet qui est très inquiétant. Il y avait 4,5 milliards d'habitants en 1970 et on nous tenait déjà le même discours. On a réussi, grâce à des progrès technologiques, à nourrir les gens, alors peut-être avec des erreurs, peut-être avec des technologies qui ne sont pas satisfaisantes. Moi, je ne suis pas du tout, d'ailleurs, hostile au principe de l'effet.
Les Africains de se nourrir, l'autoproduction agricole,
bien sûr.
Oui, bien sûr. Il y a énormément de sujets, mais ceci étant dit, ce qu'on constate, c'est que quand vous regardez les années 70, on vous annonçait qu'il y aurait des famines dès les années 80, que la révolution technologique dans l'agriculture, ce qui n'est pas parfaite, je suis totalement d'accord avec vous, elle a ceci étant dit permis d'éviter toutes ces famines, elle a permis de nourrir les gens, et qu'aujourd'hui, vous avez 7,5 milliards d'habitants, vous allez en avoir, c'est un fait, vous allez avoir 10,5 milliards d'habitants d'ici 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les limite? On fait comme en Chine? On impose de ne pas avoir d'enfants? Enfin, je ne sais pas. Il y a quand même un danger démocratique, moi, qui me semble important.
Une réponse rapide.
À imposer des réponses. Et quant à l'industrie, quant à l'économie, je pense qu'il faut agir ensemble. Il ne faut pas agir contre. Le discours, il me paraît. Non, mais je le dis très juste, sincèrement et du cœur. Nous, on est tous, je pense, engagés sur ces sujets-là. Mais là, le discours, il est radical. Et en étant radical, à mon avis, il est contre-productif. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver, justement, au résultat qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire travailler ensemble pour faire des progrès. C'est juste ma réserve.
Merci.
Je suis sympathique d'un certain nombre des points.
Une réponse de Maxime. Et ensuite, justement, on va ouvrir aux questions avec vous. Donc, vous pourrez parfaitement vous exprimer à ce moment-là.
Sur les qui décident, la question, en fait, l'enjeu, c'est que les décisions sont tellement radicales. Si vous regardez ce que le BEL Évolution, donc le cabinet de conseil, a sorti comme préconisation, si on voulait tenir en dessous des 1,5 degré, les engagements que chaque citoyen devrait prendre sont impossibles. On serait tous héroïques et on n'y arriverait pas. Donc, effectivement, il y a un problème démocratique et je suis convaincu d'une chose, et c'est pour ça que j'ai lancé la bascule, c'est qu'il n'y aura pas de transition écologique tant qu'il n'y aura pas eu de transition démocratique. Et pour avoir une transition démocratique, en fait, il faut remettre un petit peu de citoyens dans les prises de décision, comme le fait la Convention citoyenne pour le climat. Nous, ce qu'on fait, c'est de la gouvernance partagée et de l'intelligence collective. On peut le déployer, et c'est une partie du travail que fait la bascule, on peut le déployer sur les territoires, justement, pour travailler ensemble. Et ça se base sur le tirage au sort ou sur une vraie représentativité, hein, avec plusieurs catégories de gens, ce qui n'est pas vraiment notre système représentatif actuel. Par ailleurs, on l'entend depuis toujours, je vous invite à regarder, ou à imaginer un petit schéma où on voit deux bulldozers qui gratte, et au-dessus il y a un espèce d'île, et puis chacun dit oh, ça fait 20 ans qu'on nous dit que ça va tomber, mais attends, que dalle, en fait ça va un moment ou l'autre finir par tomber, et ça c'est juste scientifique. Et sur les 7 milliards d'habitants, juste deux choses sur la population, 10% des plus riches émettent 55% des gaz à effet de serre. 10% des plus riches. Donc, en fait, on peut vivre avec le niveau de vie moyen d'un humain, on peut être 10 fois plus. Par ailleurs, avec ce que jettent les Américains en termes de bouffe, ce que jettent les Américains suffit à pallier l'augmentation, à combler aujourd'hui les 850 millions de personnes qui mangent pas à leur faim. Et demain, si on prend tout le gaspillage global, voilà, de la planète, ça permet de nourrir les 2 milliards d'habitants qui arrivent en plus. Donc il n'y a aucun souci. Et effectivement, merci. Comme le disait madame, aujourd'hui, vous dites qui décide? Aujourd'hui, nous sommes une civilisation qui décidons pour l'ensemble de la population, enfin pour l'ensemble du globe, et qui imposons nos desiderata dans le quotidien des gens de l'autre côté. Et sur le terme de radicalité, bah ouais, hein, il a fait 46,9 degrés l'année dernière, et oui, en fait, oui, on commence à être radical, et vous pourrez trouver que c'est pas constructif. Maxime. On essaye de le faire avec tout le monde, mais il faut re-questionner l'utilité de l'entreprise.
Maxime, on va prendre les questions de la salle, parce que effectivement, vous avez, et c'est légitime, envie de participer à un micro, des micro-circules.
Bonjour, alors moi je vais retomber vraiment sur du micro et j'ai bien peur que ma question n'intéresse que Christian Saint-Etienne, mais je vais quand même la poser. On a une loi sur l'économie circulaire en France depuis peu de temps. Et quand on regarde quels sont les acteurs publics qui peuvent intervenir fortement sur produire dans le cadre de cette économie circulaire, on trouve justement les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui ont plein de responsabilités qu'elles peuvent mobiliser à ce sujet-là. En particulier, alors j'ai donné un exemple tout à fait particulier à Cergy-Pontoise. La communauté d'agglomération et Veolia ont fait une usine de récupération des matériaux de pointe où on va pouvoir, au fur et à mesure que feront les appels d'offres, seront lancés les appels d'offres, on va pouvoir absolument tout récupérer pour refaire de la matière. Je pense que quand on parle de production, refaire de la matière, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Moi, ce qui me tracasse, et j'aurais pu poser la question dans la précédente table ronde, c'est que quand une communauté d'agglomération fait quelque chose d'intéressant, et je vous assure, il y a plein de choses intéressantes. Alors, je redonne encore un exemple. En Normandie, le département a créé un institut de conseil sur l'économie circulaire, et donc même les communautés de communes rurales peuvent se lancer dans des opérations intéressantes. On a créé une agence des territoires qui fonctionne à partir du 1er janvier, sauf qu'elle est, en fin de compte, destinée à ne travailler que sur les territoires à problème. Et donc, tout ce qui se fait d'intéressant aujourd'hui dans les communautés d'agglomération, tout ce qui fait de dynamique, qui crée cette économie verte, qui connaît ? Personne. Même l'association qui regroupe toutes les communautés de communes n'est pas très punchy là-dessus. Et l'État, à mon avis, ne joue pas du tout son rôle d'animateur. Normalement, toutes les communautés de communes et d'agglomération devraient faire chaque année un rapport développement durable. Personne ne vérifie si c'est fait ou si c'est pas fait. Et si c'est pas fait, il n'y a pas de punition. Toutes les communautés d'agglomération et les communautés de communes auraient dû faire un plan climat. Moi, la mienne, elle l'a pas fait. Pouf, elle s'en fiche, ça lui coûtera pas un centime de dette publique. Donc, si vous voulez, moi, il me semble que c'est déjà assez compliqué de faire de l'économie verte. On voit bien que l'économie verte, elle va être faite avec des alliances privées-publiques assez innovantes et très intéressantes. Mais si on veut que ces acteurs, veut dire que ceux qui bougent soient connus, si on veut qu'ils obtiennent des crédits plus facilement pour pouvoir lancer des nouvelles opérations, il me semble qu'il faudrait quand même un minimum d'animation nationale et de mise en valeur. Voilà.
Merci.
Alors, sur ce point, il y a une question de taille critique. Donc on n'est plus 36 000 communes, mais 35 000. Mais ceci étant, sur les 35 000 communes, il y en a 15 000 qui n'ont pas la taille critique pour faire quoi que ce soit dans le domaine de l'économie circulaire ou du changement de modèle. Donc, il se trouve que avec ces 1250 exécutifs que je propose de mettre en œuvre, et pour une fois, il suffit de changer la loi. Voilà. C'est-à-dire de faire l'élection au niveau des communautés de communes plutôt qu'au niveau des communes. Je ne supprime pas les communes, je garde les 35 000 communes. Elles deviennent des subdivisions de ces collectivités qui reprennent toute la gestion des déchets, toute la gestion de l'innovation locale, la réflexion sur les systèmes de santé, d'éducation, ainsi de suite. Mais donc, ce que je propose, après, vous évoquiez qui fait quoi. C'est une question très lourde. Hein. Bon, il y a quelques personnes qui travaillent en France sur ce sujet, mais très peu. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, que la data est morte depuis une vingtaine d'années. Donc, quand j'ai fait ce rapport, il y a 10 ans, sur la redynamisation des territoires au service de la croissance, j'ai pu auditionner des maires de très grandes villes, des gens très connus du pays, de régions. Bon. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? C'était assez frappant. Ils étaient de droite ou de gauche. Il me disait, j'arrive, je ne sais pas, je suis maire de Nancy, je suis responsable de la communauté de Bordeaux, je veux réfléchir à moyen terme sur l'évolution de mon territoire. Je n'ai pas forcément toutes les qualifications avec moi pour le faire. Je me retourne vers l'État, il n'a rien à me proposer. C'est-à-dire que toutes les fonctions de réflexion stratégique ont été éliminées. Donc, ce que je propose, c'est de reconstruire ces fonctions. Et c'est pas des enjeux massifs. En fait, ce que je propose, c'est d'avoir à la tête de l'État une agence de réflexion stratégique. Il peut y avoir seulement 200 ou 300 personnes. Il peut y avoir des gens qui réfléchissent à l'environnement, qui réfléchissent à la transformation des territoires, pour faire des choses qu'on n'aime pas faire en France. Notamment, regarder ce qui marche dans un territoire pour aller voir les autres territoires en leur disant, voilà ce qu'ils font les autres, vous pouvez aussi le faire. L'autre point, c'est que ces 300 pourraient animer 2 ou 3 000 experts. Et une fonction clé de cette agence serait l'accumulation des expériences et le fait de pouvoir les transmettre à tous les territoires. Ceci étant, est-ce que c'est cette agence qui doit décider du modèle du futur ? Et là, je pense que par rapport à la question que vous posiez, je pense qu'il faut réévaluer le rôle du département. Alors, je le développe pas, mais il y a quelques années, on pensait qu'il fallait supprimer le département, que c'était un truc du passé. Aujourd'hui, les gens qui réfléchissent sur l'action territoriale considèrent que, en fait, il faut diviser par 2 le nombre de départements, mais il faudrait avoir une 50aine de départements qui reçoivent une fonction d'animation de ces 1200 communautés de communes et qui pourraient les aider dans la réflexion sur l'économie circulaire, le traitement des déchets, toute la transformation du système agricole. Parce qu'en fait, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une erreur d'opposer économie, écologie. Je pense qu'en fait, il faut les deux. Et que donc, le développement industriel doit être simplement pensé dans le respect de la préservation de la planète. Et il y a une autre, je ne développe pas plus.
On va laisser du temps aux questions. Mais
il y a une autre fonction qui, pour les gens qui réfléchissent sur la reconfiguration de notre système d'action territoriale sur les départements. On a évoqué, je le mentionne, mais on ne va pas le développer.
Alors en 30 secondes, quand il y a eu, Christian Saint-Étienne.
Oui, en 30 secondes. Quand il y a eu les Gilets jaunes, on a dit que c'était le fruit de la désindustrialisation, mais il y a aussi un problème de perte d'identité. Et une des fonctions qu'on assigne à ces nouveaux départements, par exemple, on peut fusionner les Charentes et les Charentes-Maritimes, ça vous fait un département des Charentes, ça donne une fonction d'identification sur les territoires. Donc, voilà, il y a toute une réflexion qui n'est plus menée. Vous écoutez les hommes politiques au niveau national, il n'y a plus personne qui propose ou qui réfléchit à ces questions. Donc, effectivement,
merci,
comme il y a 60 ans, il faut repenser le développement.
On va maintenant
des
passer à une question de la salle. Voilà, il y a beaucoup de bras qui se lèvent, il y a beaucoup de questions. Il nous reste 2-3 minutes. Donc,
Bonjour.
J'ai un micro dans la main, je ne sais pas si c'est abusé.
Bonjour, voilà. Moi aussi j'ai une question, plutôt une remarque.
Alors, je suis tout là-haut. Rapide, ouais.
Bonjour. Je voulais juste réagir par rapport aux échanges qu'on a eus précédemment. Merci pour l'organisation de cet événement. Je fais partie de l'équipe 1000 cafés et nous aussi on essaye de relancer l'emploi local par la création de cafés multiservices dans des communes de moins de 3500 habitants, là où il n'y a plus de boulangerie, plus de boucherie et plus de cafés. Donc voilà, l'idée là, c'est vraiment de réunir toutes nos forces et nous, c'est ce à quoi l'équipe 1000 cafés s'attache. Travailler à la fois avec l'État, les dispositifs qui existent, avec un travail vraiment de terrain, de visite des communes, de compréhension de leurs besoins. Et nous, moi, la remontée là, que je voulais faire par rapport à l'échange qu'on a eu précédemment, c'est de se dire, c'est vraiment un travail à faire en agilité avec plusieurs acteurs. Et qu'il y a un vrai potentiel aussi au niveau de l'agriculture, au niveau des circuits courts, qu'un territoire qui est relié avec sa ruralité, c'est un territoire vivant. Et nous, on sera plus simple d'installer des cafés, effectivement, dans des territoires ruraux, dynamiques, qui sont rattachés avec leur agriculture pour promouvoir des circuits courts. Et on sent bien aussi que c'est dans ces territoires-là qu'il y a un sentiment moindre de relégation et voilà, un plus fort attachement au territoire et donc une vie locale plus intense.
Merci, merci à vous. On va prendre une autre question et on fera des réponses groupées et rapides, malheureusement.
Merci beaucoup. Oui, ça, je peux y aller. Je vais me lever comme ça, on va se voir. Je m'appelle Jean Besançon, je fondais et je dirige l'Université ouverte des compétences. Et vraiment, d'abord, merci aux intervenants et aux intervenants précédents. Je trouve, il y a un mot de Bion que j'aime beaucoup, qui est « la réponse est le malheur de la question ». Et donc, ce qui est important, c'est la question. Et je trouve, en éclairage du débat qui est là, mais qui était là aussi ce matin, me vient une question d'Albert Jacquard. Il est finalement évoqué à demi-mot par Maxime de Rostolland. Albert Jacquard, polytechnicien et plein d'autres choses, raconte une petite histoire. Je vous la fais très courte.
Très courte.
Voilà. Ça se passe en 2005 et Chirac est président de la République et Chirac lui dit « Ah, Monsieur Jacquard, c'est génial, on va faire 3% de croissance cette année. Et Albert Jacquard lui dit, ah, c'est une formidable nouvelle, Monsieur le Président, mais pendant combien de temps? Alors Chirac ne comprend pas la question. Et donc Albert Jacquard dit, 3% de croissance, pendant combien de temps? Et Chirac ne comprend toujours pas la question. Il y en a qui dit, moi j'ai fait des maths un petit peu, 3%, ça veut dire on double en 20 ans, on multiplie par 7 en 100 ans. Donc, ma question là, c'est comment relancer la production dans les territoires? Est-ce que c'est vraiment la bonne question? Par contre, la question générale du colloque, comment réconcilier la France avec les territoires, avouez que c'est une autre question. Et si on est sur comment relancer la production, assez vite, c'est normal qu'un Philippe Dornano va dire si on change le système fiscal, tout va mieux aller. Mais quelque part, il y a des questions qui sont autour de la gouvernance, mais sur la question de qu'est-ce qui serait juste et bon de faire sur les territoires, sachant qu'on est quand même dans un monde limité.
Merci. Voilà. Effectivement, il nous reste une minute. On va prendre un très très rapide élément de réponse pour qui il le souhaite. Une minute, et puis on va devoir ensuite rendre le micro et la salle pour le prochain.
On va pas être d'accord tous sur cette scène sur est-ce qu'il faut ou non relancer la production dans le territoire. Je pense qu'il le faut, mais il y a une certaine chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est qu'il faut répartir la production sur le territoire avant même de produire. Et il y a trop d'usines, trop de centres d'entreprises dans les grandes métropoles, il faut les relocaliser. Ou alors permettre aux gens d'habiter dans des territoires moins habités, plus ruraux, pour les faire revivre, relancer les cafés, justement, plutôt que de relancer des cafés, recréer des cafés, des services publics dans les territoires, et organiser le transport entre les zones d'habitation, qui vont devenir progressivement des zones de production, peut-être, au détriment des grandes métropoles, tant pis pour elles, mais au moins qu'il y aura une gestion plus saine de l'espace en France.
Merci. Encore une intervention, soit Philippe, soit...
Moi, je dirais juste un mot sur la production des territoires. Aujourd'hui, la population mondiale s'enrichit. Les 10% plus pauvres s'enrichissent, les classes moyennes mondiales s'enrichissent, mais c'est les Chinois, c'est les Indiens, et je ne pense pas qu'ils attendent nos décisions. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre une grande autonomie, en train de décider, eux, ce qu'ils ont l'intention de faire, et je pense que l'Europe a justement perdu, et même les États-Unis comme sont en train de perdre une très grande influence. Je vais en Chine tous les ans, alors j'y suis pas allé, rassurez-vous, là, immédiatement. Mais il y a une et nous, cette production, c'est nos savoir-faire. Moi, c'est juste ça ce que je voudrais dire. C'est nos savoir-faire. On en a perdu beaucoup parce que on a créé des conditions qui n'étaient pas favorables. Ces savoir-faire, c'est des petits savoir-faire, des grands savoir-faire, mais c'est une richesse. Et c'est dommage de perdre cette richesse, et quand on l'a perdue, il faut pas mal de temps pour la retrouver.
Merci beaucoup, on vous applaudit très fort. Merci pour vos interventions.